Mathieu Loire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes stratégiste chez AXA Investment Manager. On va parler avec vous de stratégie et de perspective d'investissement. Avant de parler de l'année 2013 et de la stratégie proprement dite pour 2013, comment vous analysez, on va dire, ce bilan 2012 sur les principales classes d'actifs ?
Alors 2012 est une année qui se finit plutôt pas trop mal, notamment sur les actions, qui sont la meilleure classe d'actifs en termes de performance, meilleure même que le crédit qui pourtant a eu une performance très très honorable sur l'année. Donc globalement, bonne année pour les actifs risqués, alors qu'effectivement tout n'était pas gagné d'avance, étant donné qu'il y avait un certain nombre d'incertitudes, de risques, notamment du risque sur le front de la crise de la zone euro qui aurait pu effectivement apporter des réponses et des impacts un peu négatifs sur les marchés. Donc voilà, on espère que 2013 effectivement sera du même calibre.
Alors, on a une vraie différence entre, on pourrait dire, cette performance des marchés et puis la macroéconomie, où là on a encore à la fois beaucoup d'incertitudes et puis des chiffres plutôt décevants si on prend la zone euro où on nous annonce effectivement la récession très très proche déjà dans certains pays.
Oui, alors le gros de la performance, notamment sur les marchés actions, on le voit, est dû à une décrue du risque systémique, ce qu'on appelle le risque systémique, c'est-à-dire ce risque lié à l'éclatement de la zone euro, et notamment parce qu'il y a eu un certain nombre d'avancées et de choses qui ont vraiment changé la donne, notamment depuis l'intervention du président Mario Draghi en fin juillet, qui a initié ce mouvement vers la mise en place d'outils comme l'OMT, donc l'Outright Monetary Transaction, qui est, de notre point de vue, un outil qui a vraiment changé la donne. Donc, les performances de ces classes d'actifs-là, notamment les actions, ont été portées par la décrue du risque systémique, ça a été effectivement un plus. Maintenant, vous avez raison, sur le front cyclique, sur le front de l'activité économique, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Et on s'attend à ce que la récession se durcisse en zone euro, avec un point bas qui devrait être touché début 2013, et puis un léger rebond après. Donc les données macroéconomiques sont effectivement pas très 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 bonnes du côté de la zone euro, mais cependant, il ne faut pas négliger qu'on a un certain nombre de bonnes nouvelles en provenance notamment d'Asie, de Chine. Et ces bonnes nouvelles augurent plutôt pas mal de la reprise du commerce mondial qui pour l'instant a tendance plutôt à caler. Voilà. Et enfin, sur les US, on voit une croissance qui est plutôt relativement stable autour de 2%. Ça devrait décroître au quatrième trimestre de cette année et puis au premier trimestre de l'année prochaine. Là, c'est l'effet fiscal cliff, bien évidemment. Les investissements ont tendance un petit peu à se tasser. Mais une fois que cette partie-là sera passée, puisqu'on pense vraiment fortement qu'il va y avoir un accord, même s'il est partiel, et que l'impact devrait être quand même relativement, on va dire, modéré, même si on s'attend effectivement à un impact de 1,5% sur la croissance US, eh bien, ça devrait repartir dans le courant de l'année prochaine. Et ça, c'est plutôt un point positif, effectivement, pour les marchés actions et pour la poursuite du rallye sur le crédit.
Alors, du côté des actifs, de ces différents actifs, que ce soit marché obligataire ou actions, finalement, quand on regarde la performance 2012, on pourrait dire qu'il y avait beaucoup de liquidités, mais ces liquidités se sont réparties un petit peu partout. Et finalement, on n'a pas vraiment de discrimination sur les performances, qui est rare, on va dire, dans les périodes, effectivement, sur les marchés. En général, on arrive à effectivement distinguer entre les actions et les obligations. Là, on a l'impression qu'on a la même performance un peu partout.
Oui, alors ça, c'est parce qu'on est dans une sorte d'année charnière, un petit peu, avec un certain nombre d'épisodes pendant l'année, des reprises de tension, et puis à nouveau de l'optimisme qui revient. Donc, c'est caractéristique de ce comportement un peu binaire des marchés, où d'un côté, tout va bien, et puis après, tout va mal, et tout va re-bien. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un peu particulier, et c'est difficile d'analyser la performance des actifs en moyenne sur l'année sur cette base-là. Cependant, comme vous l'avez bien souligné, il y a un effet global, alors qu'on appelle réflationniste, des liquidités, qui est venu porter un peu toutes les classes d'actifs. Donc on l'a vu notamment sur le crédit, où ça a été très très net, une baisse des spreads très significative sur l'année et une bonne performance quasiment continue, quelles que soient les conditions de marché. Mais c'est vrai sur les actions et c'est vrai aussi d'une certaine manière sur les obligations gouvernementales qui continue à être soutenu malgré le fait que les valorisations sont quand même assez élevées. Voilà, donc l'activité des banques centrales a eu un effet un peu globalement de marée, vous savez, la marée qui porte tous les bateaux. Mais là, on a effectivement ce type de mouvement qu'on observe en ce moment.
Alors, vous parliez effectivement de ces emprunts d'État. Quand on voit effectivement les rendements à 5 ans, par exemple, pour certains emprunts de pays dits encore forts dans la zone euro, on se dit qu'effectivement, les investisseurs sont prêts à perdre de l'argent, quelque part, un peu d'argent, plutôt que directement d'en perdre beaucoup, entre guillemets, sur des marchés actions. Mais on a l'impression qu'ils ne sont pas encore prêts à prendre plus de risques. Ils préfèrent encore prendre des obligations d'État et perdre un peu. C'est étonnant comme comportement.
Alors ça, c'est lié au fait que il y a quand même un nombre d'incertitudes importantes qui subsistent. On a vu que la mise en place de l'OMT, même si aujourd'hui aucun pays n'a fait de demande officielle, ça a été un plus. C'est une sorte de bazooka prêt à dégainer à n'importe quel moment, à partir du moment où un pays en fera la demande. Mais tout de même, il reste quand même un certain nombre d'incertitudes. On a des incertitudes liées au fiscal cliff, on a des incertitudes liées au fait que les négociations, notamment sur l'union bancaire, pourraient ne pas déboucher sur quelque chose qui soit substantiel. On a de l'incertitude sur la situation espagnole. On voit bien que les difficultés de l'Espagne comment dirais-je, à atteindre ses cibles de déficit budgétaire. Donc, il y a quand même tout de même un climat d'incertitude qui subsiste. Et puis, il y a la politique ultra accommodante des banques centrales au travers le monde. Donc, on a effectivement la Fed qui vient de dire qu'une fois que l'opération Twist arrivera à expiration, donc en décembre, eh bien, ce sera remplacé par à nouveau de l'assouplissement quantitatif. On a la Banque du Japon, la rhétorique qui devient de plus en plus agressive autour de l'élection à venir, donc courant décembre. Voilà, donc globalement, ces effets-là font qu'on ne s'attend pas à ce que les taux remontent de façon violente dans les années qui viennent. Et donc, ça, comment dirais-je, on n'est pas à l'orée d'un krach obligataire massif. Donc ça, c'est un élément assez important. C'est qu'on s'attend effectivement à un moment donné, avec l'amélioration de la conjoncture qui se fera très progressivement en 2013, à ce que les taux repartent légèrement à la hausse, mais ce ne sera absolument pas quelque chose de significatif, de substantiel.
Alors, il y a eu des tentations aussi, bien sûr, dans les diversifications d'actifs, hein, sur l'or et autres, effectivement, options. On a vu que ça avait un peu moins d'intérêt en fin d'année, en tout cas du côté des investisseurs. Quelle est justement la stratégie de diversification des actifs? Est-ce qu'il y a des opportunités sur ce type d'actifs, sur d'autres actifs, justement, pour diversifier les portefeuilles?
Alors, la diversification est assez essentielle dans ce type d'environnement. Parce que lorsque, effectivement, on a des poussées de fièvre, des poussées d'aversion au risque, on a des comportements qui sont très binaires et des effets qui peuvent être assez violents sur certaines classes d'actifs. On l'a vu, hein, sur les actions tout au long de 2012. Bien que la performance au global soit positive, voire même au-dessus des espérances, hein, qu'on pouvait avoir en début d'année, il y a eu des moments où on a touché quand même des points qui étaient des points relativement bas, on a cassé des résistances. Donc typiquement, c'est le genre d'environnement où il faut absolument continuer à diversifier les portefeuilles. Ça, c'est tout à fait essentiel et c'est la raison pour laquelle nous, on est plutôt en faveur d'une allocation qui soit bien diversifiée, même si on voit des lueurs d'espoir qui nous laissent à penser qu'il est effectivement temps maintenant de prendre plus de risques, de s'exposer un peu plus, notamment sur les actions, continuer à bien s'exposer sur le crédit, mais absolument pas se désexposer massivement sur l'obligataire. Et à ce titre, effectivement, les matières premières sont une source de diversification importante. On a vu, même au sein des matières premières, des comportements radicalement différents entre l'or, qui peut être soit un jour une valeur refuge, soit un jour une matière première. Donc ça dépend du climat de marché global. Et puis le pétrole, les métaux industriels, etc., sont aussi des opportunités de diversification tout à fait valables. Oui.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Mathieu Loire. Rappelle, vous êtes donc stratégiste chez AXA Investment Manager.
Merci.